nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, La troisième époque de violence et crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti. Triste mine, tu devrais plus manger. Julien est mieux que toi. Je lui donne chaque matin du fortifiant du docteur Julio. C'est très bon et c'est très bien pour les adolescents. Il s'enlit moins son slip. Gilbert a envie de rire et se dit qu'elle doit dire ça à toutes les personnes qui reçoivent Julien. Tout Paris doit savoir tout sur son intimité. Il lui dit « Merci ». Tu me donneras le nom pour que j'en prenne. Et il va à la chambre de son ami. Frappe à la porte. Entrez. Il entre. Julien est à son bureau devant un livre. Gilbert est allé vers lui. « Salut, salut !» Gilbert lui dit pour rire. « Alors, il paraît que tu ne salues plus ton slip grâce au bon docteur Julio qui t'a calmé. » Julien devient tout rouge et dit « Cette mariage est impossible. » Gilbert lui dit « Voilà ce que c'est, mon vieux, que d'être trop familier avec les domestiques. Je la ferai mettre à la porte par mes parents. » Gilbert lui dit « Impossible, tes parents ont confiance en elle parce qu'elle le leur dit tout ce que tu fais. À leurs yeux, elle est ta nounou. Tu te rends compte ? Elles savent tout sur toi. Elles savent même des nouvelles de ton slip. Je ne suis plus un enfant. J'ai plus besoin de nourrice. » Gilbert lui dit, toi non, mais eux oui, pour te surveiller. Comme cela, ils peuvent te laisser seul à Paris tranquillement. Gilbert lui dit, toi, tu as de la chance, tes parents te prennent pas pour un bébé. Gilbert soupire et lui dit, c'est guère mieux. On a tout décidé à ma place, sur mon avenir. Et si je suis un homme, j'ai qu'à obéir. Autrement, je suis qu'un sale gosse en pleine crise d'adolescence. Obéis, tu es un homme. Sinon, tu es qu'un simple d'esprit. Alors tu vois, j'ai d'autres problèmes avec eux que des histoires de slip taché. J'aimerais mieux être à ta place. Eh, prends une chaise pour s'asseoir à côté de Julien. Qu'est-ce que tu fais? J'étudie et je dois rendre ce truc ce soir, Gilbert lui dit. Moi, je reviens de l'université et j'en ai assez. Je me demande ce que je vais y faire. à part prendre des copies des cours. Dans les amphis, l'on ne peut pas étudier. Il y a trop de monde. Ça chahute tout le temps. Où tu trouves des mecs qui draguent des filles. C'est sale, enfumé. On est tous les uns sur les autres, au milieu de canettes de bière et de papier de cigarette. On ne peut pas entendre le professeur. Les jeunes crient plus fort que lui pour distribuer des tracts politiques ou manifestations culturelles, concerts rock, théâtre, etc. Ce qui fait qu'à la fin du cours, on n'a rien attendu, on a perdu son temps. Julien lui dit, « Tu as raison, c'est le foutoir. Mais que faire si l'on veut suivre des cours ?» Gilbert lui dit, « En allant chez toi, j'ai pensé à une chose. Et si je pouvais travailler chez moi, tout seul, sans être dérangé par des ploucs ?» Alors je me suis rappelé, c'est qu'avant du temps de Pontoise, on avait fermé les universités et les jeunes travaillaient chez eux grâce à Internet. Ils travaillaient le temps qu'ils voulaient et comme ils voulaient. Ils pouvaient même étudier la nuit. Ils avaient 24 heures sur 24 des profs en ligne pour leur répondre et noter leurs devoirs. C'était formidable. Malheureusement, avec la journée qui a détruit toutes les informations numériques, on a rouvert les universités et les syndicats profs en ont profité pour exiger qu'elles restent ouvertes, soi-disant que c'était mieux pour les jeunes, que ça les sociabilisait. En réalité, ils voulaient le retour aux universités et à toutes les écoles pour retrouver leur puissance. Et comme ils sont fortement syndiqués, on a dû accepter de rouvrir les écoles. Comme cela, les enseignants peuvent faire carrière et apporter leur prosélytisme politique à la jeunesse. Julien lui dit, « C'est bien dommage tout ça. » Oui, mais je vais me renseigner sur Internet pour voir s'il n'existe pas encore des cours privés. Et si c'est bon, j'abandonne l'université, j'étudie chez moi et je me présente à mes examens comme candidat libre. » Julien lui dit, « J'aimerais pouvoir en faire autant. » Gilbert lui dit, « Qui sait? Et l'on pourrait étudier chez toi ou chez moi ?» Julien lui dit, « Chez toi, tu n'as pas Maria. » Il lui dit, « Oui, tu as raison. » La porte s'ouvre et apparaît Maria. Elle demande, « Qu'est-ce qu'elle a, Maria ?» Julien lui dit, « Ce n'est pas bien d'écouter aux portes. J'écoute pas aux portes. Et ce n'est pas bien de dire du mal de quelqu'un. Le dîner est servi, schnappant. J'ai mis un couvert pour toi aussi, » Gilbert lui dit. Merci, Maria. Ah, sans Maria, qu'est-ce que vous feriez? Qui te laverait tes chaussettes? Julien est tout rouge. Ils se lèvent tous deux. Et vont vers la salle à manger. Sortent de la chambre. Est déjà mis. Ils s'assoivent. Ah, ouvre la soupière et serre le potage. Tout d'un coup, elle leur dit, j'oubliais, attendez. Elle sort de sa poche un flacon, puis remplit d'eau les verres des garçons. Et verse quelques gouttes du flacon. Tenez, buvez. Le bon docteur Julio. Pour les garçons, c'est bien. Gilbert lui dit, « Merci Maria, tu as un amour. Oh, vous allez bien dormir et être très calme. Avec ça, il n'y a plus de Roméo, mais de beaux petits anges. » Et Elle sort de la salle à manger. Ouf! Gilbert fait « À la tienne !» et il boit. Lui, Julien, se lève avec le verre pour jeter la drogue du bon docteur Julio dans un vase rempli de fleurs. Gilbert lui dit « Les pauvres fleurs !» et Julien se rassoit. Je préfère être en Roméo qu'un ange. Elle, si elle pouvait me faire redevenir un petit garçon, elle serait enchantée. Elle le ferait de suite. Elle n'aime pas les hommes. Elle en a horreur. Elle aime mieux les petits garçons. Gilbert lui dit, parce que les petits garçons salissent moins leurs culottes. Gilbert lui dit, oh, ça suffit, et toi? Moi, je n'ai pas de nounou pour surveiller mes slips. Et puis, j'ai appris à être propre depuis longtemps. Et lui dit, tu l'aimes malgré tout bien ta petite Maria, hein? Julien lui dit, oui, j'ai plus vécu avec elle qu'avec mes parents. Alors c'est pour ça qu'elle me traite comme un petit. Le lendemain, Gilbert prend des livres pour se renseigner sur les sites internet et regarde sur son écran pour voir s'il n'a pas trouvé une école. Une école privée qui marche encore. Il en trouve une. Il doit s'inscrire, payer, mais avant, passer un examen pour voir son niveau. Il cherche aussi pour Julien. Il trouve une école américaine qui pourrait faire affaire. Il met tout ça et en parle à son ami et tous les deux, par le lien internet, demandent des informations pour s'inscrire à l'école. Ils passent un examen chez eux. On leur répond qu'ils sont au niveau et reçus. On leur demande une certaine somme. Gilbert met sur l'écran sa carte de crédit identité pour payer et la chose est faite. On lui envoie de suite une clé pour entrer dans le site avec la liste des cours. En plus, on lui envoie par courrier des livres pour aider à suivre et des devoirs à faire chez soi en plus des cours sur le site. Pour Julien, c'est la même chose. À la fin de leur scolarité, ils recevront une feuille qui montrera leur scolarité dans cette école, leur niveau et l'autorisation de passer des examens. Par leurs propres moyens, ils pourront se faire inscrire comme candidats libres. Les deux garçons ont bien choisi un ordinateur qu'ils ont mis dans leur chambre, bien décidés de travailler, souvent l'un à côté de l'autre. Alors Julien installe un deuxième ordinateur dans sa chambre, ce qui fait qu'ils travailleront tous les deux dans la chambre de Julien et après, ils dormiront chez lui. Ils travaillent plus vite, dans le calme, alors qu'ils veulent, et s'ils ont mal compris un cours, ils peuvent le reprendre autant de fois qu'ils veulent et poser toutes les questions à n'importe quelle heure. C'est très pratique, ils sont libres de leur emploi du temps, pas de transport, pas être ennuyé par les autres. Il travaille plus vite et mieux dans le calme, dans de bonnes conditions, grande table, la place pour écrire. Ils peuvent faire la pause qu'ils veulent. Ils peuvent ne pas travailler un jour et le lendemain prendre le cours de la veille. Plus tributaire de temps, d'emploi du temps, l'esprit est plus détendu, libre. Les études se font plus, ne sont plus une contrainte, mais deviennent une chose agréable, utile, qui leur permettent d'évoluer, d'avancer, de s'enrichir, d'enrichir le savoir, d'aider à devenir des adultes. Les jours passent. Gilbert et Julien sont plus calmes et libres. Cela leur permet de sortir ensemble, d'aller au cinéma et de faire des promenades le matin à vélo en dehors de Paris. Julien aime beaucoup le vélo. C'est simple, ça ne nuit pas, ça ne fait pas de bruit ni d'énergie et l'on peut aller n'importe où avec. Gilbert aussi aime bien. Charlotte aime que son fils fasse du vélo parce que le vélo n'a pas de classe et de toutes les classes, du plus pauvre au plus riche. Et tout ça, que ça le sociabilise et que ça lui rapproche des gens de toute classe. Il lui dit en riant, « Ça me permet surtout de m'évader et d'être seul. » Elle lui dit, « C'est encore mieux. Ça te rapproche de la nature et de Dieu, de la méditation. » Saint François d'Assise aurait aimé le vélo. Gilbert dit à Julien, « Ma mère pense que le vélo mène au paradis. » Julien lui dit, « Ça dépend avec qui. Il peut mener au 7e siècle. » Et ils rient tous deux. Gilbert ne parle plus à son fils de l'aider. Il attendra un peu. Pour le moment, il pédale. Ça lui fait les muscles. Et les jours passent. Gilbert continue à penser à la jeune fille, mais s'habitue à son absence. Un jour, il voit dans le quartier du Marais un vieux libraire. Comme il n'a pas de livre intéressant chez lui, il va voir s'il n'a pas des livres qui peuvent l'intéresser. Gilbert aime les vieux livres, les livres d'avant sa naissance et même plus vieux. La librairie se trouve dans une petite rue étroite, avec de vieux immeubles sans âge. On dirait la rue d'une vieille ville. C'est gris. Les commerces n'ont pas changé depuis des lustres, ni leur vitrine, ni leur façade. La rue a peu de monde et de voitures. La librairie ressemble à une vieille librairie des années 30. Façade de bois, maison, écrit peint sur la façade en jaune, aux livres anciens. Dans la vitrine, celle de droite, de vieux albums de bandes dessinées années 20-30. Tintin, Corvaillant, Les Pieds Nickelés, Lily, Fripounette, etc., etc. Ce sont de vieux albums usés. Dans la vitrine de gauche se trouvent des livres, romans de vieilles éditions de Loti, Morand, Baudelaire, Balzac, etc., etc. On entre dans la librairie par une porte vitrée en bois. Attention à la marche qui descend pour aller dans le magasin. Après, l'on ouvre la porte. La petite sonnette qui vous annonce. Ce qui vous surprend, c'est d'abord le manque de lumière. Pendant quelques secondes, vous n'y voyez rien. Puis, vous prenez l'habitude et vous voyez une pièce encombrée de livres. Il y a des étagères en bois pleines de livres qui montent jusqu'au plafond. Des tables de bois au milieu du magasin pour que le client puisse tourner autour des piles de livres et des livres à terre aussi en piles. Dans un coin à droite se trouve une petite table de bois où est assis à table sur un tabouret de bois le libraire, un livre à la main. C'est un homme gros à barbe et moustache grise, la pipe à la main, habillé d'un vieux costume râpé en velours marron, une chemise à col ouvert gris, de gros brodequins marron. Le libraire ne s'occupe pas de ses visiteurs, il ne leur parle pas, ne leur pose pas de questions. Lui passe son temps à lire de vieux journaux de voyage du 19e siècle, avec des descriptions d'époques indigènes, animaux et végétaux. Bien entendu, si un client vient lui poser des questions, il lui répond. Il lui amène des livres anciens qu'il a achetés et revend. Il est connu pour ça et n'a pas besoin de se déplacer. Avec les dénombrements de Paris, les déménagements, les gens font des découvertes de livres dans les greniers, caves, etc. Ils ne savent pas quoi en faire, alors ils les bradent chez le libraire du coin qui les achète au prix du papier et le revendent comme livres rares. À un prix fort, même le moindre autographe de Miss France de 1980 a été vendu comme quelque chose de rare, et les gens sont heureux de faire l'affaire du siècle. Mais le libraire est inquiet et se demande si son quartier ne va pas être démoli. En voyant arriver Gilbert, qu'il connaît, il sait qui est son père, il lui fait signe de venir le voir. Gilbert s'approche.
« Bonjour, monsieur Muron. »« Bonjour, mon petit. Comment va les affaires ?»
Le même, de mieux en mieux.
Et celle de ton père?
Ça semble aller, on démolit à tout va.
Justement, j'aimerais savoir si tu sais pour moi.
Gilbert lui dit. Ils n'ont pas encore étudié le quartier.
Monsieur Muron lui dit. S'ils étudient le quartier, tu pourrais bien leur dire de le laisser comme il est. Il pourrait en faire un quartier historique pour les touristes.
« Tâcherai, mais je ne suis rien, moi. » Le libraire lui dit.
« Tu comprends, je suis inquiet. Tu me vois tenir ma librairie dans une cité, entre le supermarché, l'épicier arabe, dans un parking. Il me mettrait facilement le feu à tout ça, avec la bénédiction de Monseigneur Yoga. Non. Je veux rester ici, ou c'est ma mort.
Je tâcherai de leur expliquer ça. Je vais voir ce que vous avez comme livre.
Je te laisse ruiner. Allez, vas-y.
L'homme reprend sa lecture. Gilbert va voir les titres dans les allées. Il y a trois clients qui font comme lui. Des jeunes d'un autre âge, grands, maigres, pas très nets, barbe de vieux, costume gris, chemise blanche sale. Ils ressemblent à des fantômes hors du temps. Gilbert se demande si lui aussi n'est pas comme eux, parce que lui aussi aime feuilleter ses vieux livres. Il regarde les titres et ne voit rien d'intéressant, que des choses qu'il connaît. La sonnette de la porte a retenti. Instinctivement, il lève la tête et voit une silhouette à contre-jour, mais il ne peut la reconnaître. Elle est là, elle descend, et la silhouette devient grande, mince, blonde, aux yeux bleus, cheveux longs, visage doux, visage très doux. Habillé d'une jupe écossaise à dominance rouge et d'une veste carreau beige. Oui, c'est elle! C'est bien elle! Il a le corps qui bat. Elle tourne la tête autour d'elle et ne semble pas le voir. S'avance vers la table qui est à côté de celle de Gilbert. Elle regarde les titres, longe la table en le regardant, puis va vers Monsieur Muron qui est toujours en train de lire à sa table. Gilbert la suit du regard. Elle dit « Pardon, monsieur. » Monsieur Muron lève la tête de son livre. « Bonjour. » Toujours avec son regard placide. Ni ébloui, ni surpris par la jeune fille. Je cherche un livre, L'au-delà du commun, de Jean-Pierre Jugnet.
Je n'ai pas ce livre, mademoiselle. Je suis navré.
Et il baisse les yeux sur son livre. La jeune fille se retourne. Gilbert, prenant son courage à deux mains, s'approche d'elle. Elle regarde bien droit dans les yeux ce jeune homme qui s'est mis près d'elle. Mademoiselle, j'ai entendu que vous cherchiez le livre L'au-delà du commun. Oui, monsieur. Eh bien, je l'ai. Si vous le désirez, je peux vous le prêter. Je vous remercie, monsieur. Mais je peux accepter. Il lui dit, vous savez, je ne suis pas un inconnu, je l'ai déjà remarqué plusieurs fois. Elle lui dit en baissant les yeux, moi aussi. Et elle se dirige vers la sortie de la librairie. Il la suit. Une fois dehors, ils marchent un peu ensemble, tout doucement, gênés tous les deux, n'osant se regarder. Puis, à la fin de la rue, elle lui dit « Ma mère m'attend, je dois rentrer. » Il lui demande « Pourrais-je vous revoir ?» Elle lui dit « Ce n'est pas bien possible. Je vais avec ma mère qui vit recluse dans un deuil constant. Pouvez-vous me donner votre nom au moins? Je m'appelle Nathalie. Et votre adresse pour ne pas vous perdre. » Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, La troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti.